Apocalypse 21, si vous y êtes pas, vous êtes un petit peu en retard, mais ça va. Vous avez le temps de vous y rendre. Apocalypse 21. On regarde juste un verset parce que aujourd'hui, on considère beaucoup de versets qui nous parlent du Dieu Tout-Puissant. Si vous prenez une concordance puis vous cherchez Tout-Puissant, vous allez pouvoir faire des découvertes intéressantes. En fait, je vais vous en partager quelques-unes. Même dans ce message. Alors, vous êtes ici dans Apocalypse 21-22. Ça dit, Apocalypse 21-22. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Nous avons ici la dernière référence biblique au Dieu Tout-Puissant. Savez-vous quelle est la première? Là, on est dans l'Apocalypse, la dernière. Savez-vous quelle est la première référence biblique? Et tout est significatif, OK? Parce que quand on parle de la première, on appelle ça le principe de la première mention. Ça veut dire que ça l'établit les choses, ça a une importance significative. La première fois que Dieu se présente comme étant le Dieu Tout-Puissant, c'est à Abraham, dans Genèse 17:1. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Et voici pourquoi c'est important. Parce que Dieu se présentait à Abraham en mettant de l'avant cet attribut bien important pour tous les patriarches, parce que c'est aussi vrai pour Isaac, c'est vrai aussi pour Jacob. La révélation de la toute-puissance de Dieu, en fait, c'est la clé pour l'ensemble des patriarches. Mais si on prend simplement l'exemple de Jacob, le troisième des patriarches, pour lui, ça a été le point de départ ou l'étincelle, si vous voulez, dans sa vie, qui a amené à toujours plus une révélation de qui Dieu est, puis marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que son père Isaac lui a transmis ici. Il a dit dans Genèse 28:3, le Dieu Tout-Puissant va être avec toi, puis c'était tout relié au Messie. Donc, il s'est révélé à Abraham comme étant Dieu Tout-Puissant par rapport à la promesse messianique. À Isaac, il s'est révélé, puis c'est ce qu'Isaac a transmis à Jacob. Puis Jacob, en plus, rendu plus loin dans sa vie, vous savez qu'il y a eu dans le chapitre 32, quand il se bat avec l'ange de l'Éternel, déjà ça c'est un point tournant, mais un autre point tournant dans la vie de Jacob, c'est plus vers la fin, c'est lorsqu'il est à Bethel et qu'il change le nom de la ville, il l'appelle El Bethel. Là, c'est plus juste la ville de Dieu, c'est le Dieu qui habite dans cette ville. En fait, Bethel, ça veut dire maison de... Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais le Dieu de la maison de Dieu, OK? Et c'est là que ça devient beaucoup plus personnel pour Jacob, OK? Et dans Genèse 35:11, Dieu se présente à Jacob, justement, comme étant le Dieu Tout-Puissant. Donc, cet attribut divin, la toute-puissance de Dieu, c'est la révélation... clé ou vraiment le pivot par rapport à ce que Dieu veut révéler sur lui-même, sur son caractère dans la vie des patriarches. Parce que ça leur rappelle que Dieu est capable. Dieu, parce qu'il est tout puissant, il est capable d'accomplir la grande promesse de la rédemption. La grande promesse du rédempteur qui doit venir, parce que vous savez, depuis la Genèse, la promesse était, hein, quand le péché est rentré dans le monde, dans Genèse 3:15, il a dit que, en parlant à Satan, il a dit que la postérité de la femme, ça c'est une promesse messianique, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. OK? Et ça, les patriarches s'accrochaient à ça, là. Le message s'est passé, puis là, Dieu, il rêvait comment il est tout puissant qu'il va. Ben, c'était loin, là. Il y avait du chemin à faire. Ça prenait vraiment un Dieu tout puissant pour être capable de faire ça. Mais Dieu l'a fait. Et une autre chose que je veux qu'on remarque, et c'est un message un peu de la semaine passée, j'ai dit que le message est un peu unique et inusité. Peut-être que c'est un peu la même saveur cette semaine. C'est pas un message en trois points, puis tout ça. Je veux vraiment poser la fondation pour définir c'est quoi la toute-puissance de Dieu, puis montrer pourquoi c'est important. Donc là, je vous amène certaines vérités de base. Là, j'ai commencé avec les patriarches. Il y a une expression qu'on voit dans la Bible, pas à tant de reprises que ça, mais qui est importante. Le puissant de Jacob. Quelqu'un, ça vous dit quelque chose quand je dis le puissant de Jacob? Oh, j'ai pas vérifié en anglais, c'est quoi? The mighty of Jacob, I guess. Si tu vas voir dans Genèse 49:24, tu vas le trouver. 49:24. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les références, je les ai écrites. Mais je veux juste vous montrer ici, parce que avec cette expression « le puissant Jacob », ça complète le tableau du portrait de notre grand Rédempteur promis, OK? Qui est l'espérance d'Israël. Hein? Israël s'attendait au Messie. C'est quoi en anglais?
The Mighty God of Jacob.
The Mighty God of Jacob. OK, le puissant de Jacob. Et bon, c'est un peu la même idée que Dieu Tout-Puissant, là. C'est pas le même mot, mais ça réfère au même concept. Dans Genèse 49, 24, ça dit, à la fin du verset, ça dit, « Par la main du puissant de Jacob, il... » Puis là, c'est, vous savez, c'est le passage où est-ce que Jacob parle à ses fils, puis leur fait toutes des c'est des bénédictions, mais ça a une valeur prophétique, OK? Puis il dit à Joseph, « Par la main du puissant de Jacob, il, Joseph, est devenu le berger, le rocher d'Israël. » Et on sait qu'ici, Joseph est un type du Messie, un type de Jésus, comme tout l'Ancien Testament pointe toujours à Jésus-Christ, tout s'accomplit en Christ. Et ça nous révèle le rôle du Rédempteur. C'est-à-dire que le Rédempteur est un berger, quelqu'un qui prend soin. OK? Le Rédempteur est aussi un rocher, c'est-à-dire ça nous parle, un rocher, ça nous parle de protection. On peut s'abriter sous un rocher. On voit ça beaucoup dans les psaumes. C'est aussi la stabilité. Il a mis mon pied sur le rocher. Hein? On parle d'une stabilité, puis même la provision de Dieu, parce que dans le désert, le rocher qui les suivait, c'était Christ, et il pourvoyait à tout l'eau dont il avait besoin. Donc ça, c'est le rôle du Rédempteur, rôle de protecteur, rôle de celui qui prend soin. Mais aussi dans le psaume 132, à deux reprises, on a l'expression « puissant de Jacob ». Ça parle de David qui a fait un vœu au puissant de Jacob. Ça dit « jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Psaume 132, verset 2, verset 5. Ça nous parle du lieu de la rédemption. C'est quoi l'importance? C'est Jérusalem. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Golgotha. Le lieu de la rédemption, ça nous parle de la croix. À cet endroit précis dans tout l'univers, Dieu a placé cette croix qui est le centre de l'histoire d'humanité. Donc ça nous est révélé encore avec l'expression « le puissant de Jacob ». Et maintenant, tournez avec moi, je ne l'ai pas fait tourner avant parce que je ne vais pas trop vous faire tourner à gauche, à droite, mais venez avec moi dans Ésaïe chapitre 1. Vous savez qu'Ésaïe, d'une façon bien unique et bien spéciale, nous révèle le Rédempteur. On s'entend tous pour dire que Ésaïe est le plus messianique des prophètes. Ésaïe nous révèle le Messie comme aucun autre prophète. Tous les prophètes parlent du Messie. Mais vraiment, Ésaïe a spécialement ce rôle de nous révéler celui qui est le bras de l'Éternel, celui qui est le serviteur de l'Éternel, différents noms qui sont donnés au Messie qui était promis dans Ésaïe. Et ici au verset 24, vous êtes ici dans Ésaïe 1, verset 24. Ça dit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. C'est le même mot que pour le puissant d'Israël, OK? Le fort d'Israël, le puissant. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Ici, on a un premier aspect de ce qu'Ésaïe nous révèle sur ce puissant Rédempteur. D'abord, son identité. Son identité de juge, OK? Parce qu'elle dit qu'il va venger ses ennemis. Mais regardez aussi, toujours dans Ésaïe, mais maintenant dans chapitre 49 et verset 26, il y a un autre aspect du Rédempteur. Puis ça, encore là, si vous étudiez Ésaïe, vous allez voir, c'est typique à Ésaïe. Il y a tout le temps, c'est comme si Ésaïe va tout le temps sur un des deux tableaux. C'est comme s'il y a tout le temps un pied sur un côté ou un pied sur l'autre. Dans Ésaïe, il y a tout le temps le côté de la grâce de Dieu puis le côté du jugement de Dieu. C'est toujours en équilibre les deux. Ça nous présente le serviteur de l'Éternel qui va venir pour juger puis accomplir la justice de Dieu. Puis aussi qui va subir la justice de Dieu de la part de la croix, puis OK, mais aussi de la grâce de Dieu. Puis quand vous étudiez Ésaïe, vous allez voir ça. Il y a toujours ces deux éléments-là qui sont là. OK? Donc, on voit ça, chapitre 1, ce Rédempteur, il est identifié comme étant le juste juge. Mais aussi, chapitre 49, verset 26, ça dit « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivront de leur sang comme de mou. Toute chair sera que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Et une dernière référence, dans 60, verset 16. L'identité du rédempteur. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Donc voyez-vous, il y a deux références qui nous parlent de l'identité comme celui qui sauve, le rédempteur, celui qui rachète, mais aussi la première qu'on a vue, celui qui juge. Donc, cette expression, le puissant de Jacob, ça nous révèle le rôle du rédempteur, un berger, un rocher. Le lieu du rédempteur, il va venir à Jérusalem, puis il va venir plus précisément même à Golgotha. Puis son identité, c'est celui qui juge et aussi celui qui rachète, qui sauve. Tout ça, ça nous enseigne que la révélation de la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament est très prophétique ou messianique. Quand on parle de la toute-puissance de Dieu, dans l'Ancien Testament, ça nous réfère au Messie. Ça nous réfère à ce qui a été prophétisé sur Jésus. OK? Puis qu'est-ce qu'il y en a du Nouveau Testament? Quand le Nouveau Testament nous parle de la toute-puissance de Dieu, on n'aura pas voir toutes les références. Savez-vous qu'est-ce que ça dit en simple, in a nutshell? Que tout est accompli. Dans la naissance virginale de Jésus, dans sa vie parfaite, dans sa mort expiatoire et dans sa résurrection triomphante, qui en passant sont toutes accomplies par la toute-puissance de Dieu. Parce que ça prend vraiment un Dieu tout-puissant pour faire ces choses-là. Vous irez voir dans Éphésiens 1, 19, ça dit que Dieu a manifesté cette grande puissance par la résurrection d'entre les morts. OK? Donc, prophétisé, annoncé dans l'Ancien Testament, accompli dans le Nouveau, tout ça nous montre qui Dieu est. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et le point culminant de tout ça, c'est dans l'Apocalypse. Apocalypse, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Révélation, le dévoilement. The unveiling, le dévoilement. T'sais, c'est comme si le voile est enlevé. T'sais, Jésus-Christ, on le voit, il est venu sous une forme humaine. Donc, ça nous dit, hein, le kenosis, on a vu ça une couple de mois, il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas arrêté d'être Dieu, puis il n'a pas perdu ses attributs divins, mais il les a mis volontairement de côté. Certains attributs divins, il les a mis de côté parce qu'il a pris une forme de serviteur. OK? Mais dans l'Apocalypse, le voile est enlevé. Là, tu vois, wow, Jésus le Tout-Puissant, la pleine révélation du Dieu Tout-Puissant. OK? Et c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse, si vous regardez dans une concordance, c'est l'endroit où est-ce que vous allez voir, c'est le deuxième livre où est-ce que le plus de références à l'expression tout-puissant. 9 fois. C'est quoi le premier livre? C'est quoi le livre où est-ce qu'on voit le plus l'expression Dieu tout-puissant ou tout-puissant dans la Bible? Quelqu'un veut s'essayer? Vous n'allez pas perdre des air miles si vous vous trompez, là. Est-ce qu'il veut s'essayer? Oui? Non? Non? Non. Apocalypse, c'est le deuxième. C'est quel le premier? Non? Vous pensez au patriarche? Mais en pensant au patriarche, vous n'êtes pas sur une mauvaise... Chris, tu veux t'essayer?
Genesis?
Ah non, c'est pas Genèse, non. Non, mais c'est un patriarche. Mais c'est comme un attra... Job. Ah! Ah, attends! Ça fait longtemps qu'on se pose. Tu le désinfecteras, là. Tiens. Good. OK. OK. Donc, oui, le livre de Job. En fait, trois fois plus que dans le deuxième. OK, Apocalypse, il y a 9 références au Dieu Tout-Puissant. Il y en a 31. Dans le livre de Job. Vraiment, quand vous regardez dans la concordance, ça frappe. Tu sais, il y a des références, c'est pas mal toutes, des fois 3-4 références, Apocalypse 9. 31, tu regardes ça, wow, ça parle de Dieu Tout-Puissant dans Job. Puis, il y a des puissantes leçons à tirer de ça. Pas des toutes puissantes, là, mais des puissantes leçons, des merveilleuses leçons à tirer de ça. Mais avant, puis parce que je vais terminer le message avec ça, on va tirer des leçons parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai donné le message, c'est un titre plate, là, mais mon titre, c'est la définition puis l'importance de la toute-puissance de Dieu. Là, on a commencé à définir, on a commencé à poser un fondement. On va voir comment c'est important avec le livre de Job, mais d'abord, Je vais vous donner plus d'éléments de définition. Okay? C'est quoi quand on parle, c'est important qu'on comprenne, quand on parle de Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique que notre Dieu soit Tout-Puissant? Okay? D'abord, le mot Tout-Puissant, ça réfère à son omnipotence. Omni, ça veut dire tout. Potent, ça veut dire puissant. C'est juste une autre façon de dire tout-puissant, omnipotent. Ça veut dire la même affaire. Okay? Et écoutez bien, quand on parle de la toute-puissance de Dieu, c'est une puissance qu'il exerce sans aucun effort. Savez-vous que Dieu, pour soulever un camion ou soulever une planète, c'est pas plus dur pour lui, ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas besoin c'est donc bien lourd. Non, Dieu, vu qu'il est tout-puissant, il peut juste dire, en fait, puis pour exterminer une planète ou le soleil ou la grosseur, il fait juste dire un mot, il fait juste le penser, il est tout puissant. C'est pas comme si c'est plus dur de faire quelque chose, c'est ce que ça implique d'abord, ok, sa toute puissance. Elle est exercée sans effort parce que Dieu est totalement autosuffisant, inépuisable et infini. Dieu est un être infini, donc s'il est tout puissant, il n'y a pas de limite à sa puissance, ok? Maintenant, quand on va dans l'Ancien Testament, puis si on lisait en hébreu, puis on voyait le mot El Shaddai, on dirait, ah, ça c'est Dieu Tout-Puissant. Le mot duquel on a Tout-Puissant dans l'Ancien Testament, c'est El Shaddai. Et là, il y a des cantiques là-dessus, El Shaddai. Dieu peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il possède une puissance qui ne peut jamais diminuer. Dieu ne se fatigue jamais. Dieu ne manque jamais de gaz. Il y a tout le temps toute la puissance infinie à tout instant depuis toute éternité. C'est un peu dur à faire rentrer dans notre cerveau, là, mais c'est comme ça. OK? Pensez à ça la prochaine fois que vous avez un problème qui vous arrive, puis que la Bible nous dit je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que je peux avoir accès à celui dont la puissance est infinie, elle ne peut jamais s'épuiser. C'est à cette personne, à ce Dieu, que j'ai accès. Par Jésus-Christ. Mettons que ça peut donner une certaine perspective à nos problèmes, un peu plus intéressante que ce qu'on peut avoir d'habitude. Maintenant, une autre chose à comprendre sur la toute-puissance de Dieu. On sait, OK, rien n'est impossible à Dieu. OK, ça dit dans Jérémie 32, 27, c'est ça. Dieu, il n'y a rien qu'il n'est pas capable de faire, mais, écoutez bien que Dieu soit tout-puissant, puis qu'il n'y a rien d'impossible à lui, il ne peut pas faire. Ça a l'air bizarre, hein? Dieu, il n'y a rien d'impossible à lui, mais il ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à sa nature. Je donne un exemple. Dieu ne peut pas mentir. Ça dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 2, Dieu ne peut pas mentir. Dieu, parce que ça serait contre sa nature. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, ça nous dit dans Jacques au chapitre 1, parce que ça serait contre sa nature. Dieu ne peut pas se renier lui-même. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. C'est toutes des références que vous pouvez aller voir par vous-même. Là, mais okay, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Puis non plus, Dieu ne peut pas revenir sur sa parole, changer les promesses immuables qu'il a faites. Psaume 119, 89. Tout ça, ça nous amène à un élément très important sur la toute-puissance de Dieu. Le fait que Dieu est omnipotent ne signifie pas qu'il ne peut pas exercer de l'auto-limitation, se limiter lui-même. OK? Par exemple, Dieu ne peut pas mourir. Ou Dieu ne peut pas faire en sorte que Dieu 2 plus 2 égale 5. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible se limite à agir selon ce qui est en harmonie avec son caractère juste, aimant, puis les lois que lui-même a créées. OK? Donc, Dieu ne peut pas être mauvais, il ne peut pas être irrationnel, parce que Dieu n'est pas comme ça. OK? Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est unique. Donc, il est tout puissant pour faire ce qui est bon, pour faire des choses qui sont bénéfiques. Mais il n'a pas le pouvoir de faire le mal. Ça, c'est la limite que sa sainteté, parce que ses attributs se complètent tout l'un l'autre, c'est la limite que sa sainteté met à sa toute-puissance. OK? Point important à comprendre. Enfin, un dernier élément que je veux regarder sur les implications de la toute-puissance de Dieu, puis en définissant un peu. La toute-puissance de Dieu implique qu'il peut vaincre et triompher tous ses ennemis. puis tous les nôtres aussi en passant. Je vous donne un exemple, parce que je vais l'appliquer à... Un exemple de l'Ancien Testament, je l'applique à la réalité du Nouveau Testament. Abigaël, dans 1 Samuel, chapitre 25. Vous savez, Abigaël, c'est la femme de Nabal. Nabal, son nom, ça veut dire fou. Je sais pas, mais les parents de Nabal, là, c'est un... Je sais pas si c'est un nom qui a été donné après, mais maintenant, quand tu as un enfant, on va l'appeler fou, lui, tu sais. En tout cas, Nabal, son nom. Vous savez, David et ses soldats... avait protégé les biens, les troupeaux de Nabal. Puis là, il demande la grâce de... Tu sais, il dit, peux-tu t'occuper de mes hommes? Parce qu'il y avait plusieurs hommes avec David. Puis là, Nabal, il commence à péter de la broue, comme on dit en bon québécois. Fait que là, David est prêt à s'en aller, puis aller détruire la maison de Nabal. OK? Connaissez, je vous rappelle juste l'histoire rapidement. Et là, Abigaël... Elle arrive, elle prend un âne, là, je ne me rappelle plus c'est quel animal au juste, là, un mulet, peu importe. Puis elle charge avec plein d'aliments, OK? Puis là, elle s'en va au devant du roi David, puis de sa troupe, puis elle l'arrête. Elle dit, hey, je reconnais, là, David, là, Dieu est avec toi, puis tu as la faveur de Dieu partout où tu vas. Puis elle dit, t'as pas besoin de te venger toi-même de la folie, elle admet la folie puis l'offense de Nabal, là, parce que c'était, OK, je veux dire, t'es pas correct comment, qu'est-ce qu'il faisait. Puis elle dit, parce que le Seigneur lui-même va se venger. Mais c'est pas vrai que le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Puis il peut se venger de tous tes ennemis. En fond, c'est ce qu'elle dit, puis il dit, ah... Il rend gloire au Seigneur et dit, le Seigneur t'a envoyé devant moi pour que je puisse, que j'aille pas à répandre le sang et tout ça. Puis finalement, Dieu s'en est occupé, Nabal est mort, parce que Dieu est capable de faire ça. Maintenant, ramenons ça plusieurs milliers d'années plus tard. Jésus-Christ à la croix a fait quelque chose de bien plus grand que juste une coupe d'ennemis. Jésus a vaincu tous ses ennemis à la croix. Mais en Colossiens 2,15, ça dit qu'il a exposé à l'ignominie, à la honte, tous ses ennemis, le diable, le monde, le péché, la mort, tout ce qui se tient contre la vie de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a vaincu, l'a exposé honteusement en disant, vous êtes vaincu. Savez-vous quoi? C'est l'accomplissement de Genèse 3,15. Il a écrasé la tête du serpent puis toute sa suite qui est après lui. Tous les mensonges, toutes les implications. Jésus-Christ est le grand vainqueur. C'est ça que ça implique, la toute-puissance de Dieu. Il a vaincu tous ses ennemis. Maintenant, la toute-puissance de Dieu aussi, ça implique sa suffisance. J'ai dit tantôt, Dieu, il est tellement... Il est tout-puissant, il n'a pas besoin... je veux dire, il ne se fatigue pas. Il n'a pas besoin de recharger ses batteries comme le petit Energizer Bunny. C'est-à-dire qu'il est suffisant en lui-même, mais si on est en lui, on bénéficie de cette suffisance. OK? Ça veut dire que si on a Dieu, on a tout ce dont on a besoin. Parce que Dieu est suffisant en lui-même. Si je suis en lui, si j'ai accès à lui par la foi, j'ai tout ce dont j'ai besoin aussi. Parce que Dieu l'est, donc si je suis en lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin moi aussi, comprenez-vous? Maintenant... Une autre implication de la toute-puissance de Dieu, ça implique l'autonomie. Dieu, à cause qu'il est tout-puissant, il n'a pas besoin de rien, ni de personne. Savez-vous que Dieu n'a pas besoin de nous autres? Pourquoi d'abord il nous utilise? Pour la communion, pour la relation. C'est pour ça que la relation vient avant le service. L'adoration vient avant la consécration. Parce que Dieu n'a pas besoin de nous autres. Il nous donne le privilège d'être utilisé par lui, mais pas parce qu'il en a besoin, juste parce qu'il veut, parce que Dieu est amour, puis il désire cette communion, cette relation avec nous autres. Savez-vous quoi? Dieu veut une relation avec nous autres, puis selon 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 et 7, lorsque le Seigneur travaille à travers des vases de terre. Ça nous dit qu'on est des simples vases de terre. Nous qui sommes capables de rien faire, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus ne parlait pas de façon absolue, je ne suis pas capable de lever ce livre-là. Non, mais tu ne peux rien faire de valeur spirituelle. Tu ne peux rien faire qui va faire avancer mon royaume. Tu ne peux rien faire pour moi sans moi. OK? Mais qu'est-ce qui arrive quand Dieu fait quelque chose à travers des gens comme ça? Toute la puissance est attribuée à lui. Puis on voit que ce n'est pas le vase qui a le mérite, c'est celui qui a rempli ce vase. Aussi terreux soit-il, mais quand il est vide, la puissance est attribuée. Puis c'est ce que ça dit, vous irez voir de Corinthiens, afin que, pas que la puissance soit attribuée à nous, mais à Dieu. OK? Donc tout ça, ça nous aide à comprendre c'est quoi la toute-puissance de Dieu. Maintenant, pourquoi c'est important la toute-puissance de Dieu? C'est avec ça qu'on termine le message dans Job 39. Venez avec moi dans Job 39. J'ai dit qu'on allait définir. Là, on va voir pourquoi c'est important la toute-puissance de Dieu. Job 39, on va voir un petit passage. En plein milieu, vous savez que la fin du livre de Job, avant qu'il y ait la conclusion du chapitre 42, Job, comment dire ça? Il se fait remettre à sa place ou je sais pas comment. En tout cas, Dieu se met à parler puis il va dire Job a rien, il n'a pas grand-chose à dire. En fait, il n'y a rien à dire, on va le voir même dans le passage qu'on considère là. Regardez avec moi Job 39, regardez les versets 34 et 35 d'abord, OK? L'Éternel s'adressant à Job dit, donc là c'est au milieu, l'Éternel ça fait un bout qu'il parle là, puis là il s'adresse à Job. Verset 35, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Et je sais pas si vous avez lu Job dernièrement, mais ce genre de question-là, c'est pas parce que Dieu se demandait, il voulait de l'information. C'est une question rhétorique. C'est une question pour dire à Job, réfléchis là-dessus, mon gars, OK? Et ici, c'est la seule référence, OK? J'ai dit, il y a 31 références à la toute-puissance de Dieu dans le livre de Job. C'est la seule qui est prononcée de la bouche de l'Éternel. Toutes les 30 autres fois, c'est soit Job, soit ses amis qui l'ont dit. Là, c'est Dieu lui-même qui prend ce mot-là pour référer à lui. C'est significatif, je vais vous dire pourquoi. OK? Donc, c'est prononcé par l'Éternel. Et voici pourquoi je pense que c'est important. D'abord, ça nous montre que Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot par rapport à sa toute-puissance. C'est-tu quoi? Il y avait bien des choses à dire sur la toute-puissance de Dieu dans tous les chapitres qui étaient avant. Les 30 références sur la toute-puissance de Dieu, là, les hommes avaient beaucoup à dire là-dessus. Dieu parle une fois, puis il a le dernier mot, ça conclut toute discussion. N'est-ce pas quand même quelque chose de fort ici? Et c'est ce que Job, regardez la réponse de Job. Verset 36, Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Job est humilié. Dieu a le dernier mot, là. Je veux dire, c'était fini, là, la discussion, là. Plus de répliques, plus de parlage, plus de pensées vaines. Maintenant, écoutez bien. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais depuis les derniers messages, lorsqu'on se met à découvrir Dieu avec une bonne théologie biblique, n'est-ce pas ce qu'on a fait dans les derniers messages? On a regardé la souveraineté de Dieu dans le mois de juin. On commence à regarder la toute-puissance de Dieu. On se rend vite compte que le constat, c'est qu'on n'a pas rien à disputer ou à contester avec Dieu. Quand on comprend qui Dieu est, zip, on n'a rien à dire. Dieu est Dieu. Il est le Créateur, le Tout-Puissant, puis nous, on est ses créatures. Qu'est-ce qu'on peut répliquer contre Dieu? Non, on n'a pas vu ça avec la souveraineté. Hein? Qui est le vase de terre pour répliquer avec celui qui l'a fait? Hein? Il n'y a personne, il n'y a rien à dire. Bien, ici, c'est la même chose. Dieu, avec sa toute-puissance, c'est ce qu'il veut amener comme message très puissant à Job. Okay? On ne peut pas oser disputer ou contester avec le Tout-Puissant parce qu'il a toujours le dernier mot. Et c'est pourquoi de nature, on est obstineux, obstinate. Hein, ça pourrait être le bon mot pour traduire. Bon, OK, certains sont plus que d'autres, OK? Mais on est tous obstineux. Des fois, il y en a que c'est juste, il y en a que c'est plus évident que d'autres, disons. Mais on a une nature rebelle, résistante. Ou est-ce qu'on veut pas céder? Oh, non, je suis pas d'accord. Hein, c'est pas correct, ça, là. Puis pourquoi moi, puis tout ça? Mais savez-vous quoi? C'est simplement inutile de contester de même. Puis même, au bout du compte, c'est humiliant. On se rend compte, mon ami, je me suis juste mis le pied dans la bouche, juste qu'au genou. C'est comme ça qu'on dit, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'avec un Dieu comme le Dieu de la Bible, on n'a rien à dire. Donc, savez-vous quoi? Est-ce qu'ici, là, Job dit, « Je suis trop peu de choses que te répliquerai. Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas cette attitude maintenant, avant d'avoir à passer à être humilié par Dieu? Parce qu'il va avoir le dernier mot pareil. Dieu a eu le dernier mot, puis Job est arrivé à ce point-là. C'est pourquoi on n'a pas besoin de passer par toute la douleur et la misère qu'on se donne souvent en s'obstinant avec Dieu, en résistant, puis en se donnant de la misère, parce que Dieu a le dernier mot. De toute façon, on ne résiste pas avec le Tout-Puissant. C'est impossible. On va juste finir par être humilié. Donc, pourquoi que, dès le départ, on ne dit pas, « Dieu, c'est vrai, tu as raison. » En partant. Sinon, ben, c'est juste notre rébellion insensée qui va être mise de l'avant pour dire, « Ben oui, encore une fois, Dieu avait raison, puis moi, je suis tête dure, je suis obstineux. » Comprenez-vous? Maintenant, il y a une autre chose aussi, je pense qu'on peut... Je t'expliquerai après, Chris. Chris, regarde, comprenez-vous? On comprend aussi que la manifestation de la toute-puissance de Dieu, parce qu'ici, là, Dieu parle du sein d'une tempête. Je ne sais pas si la dernière fois que j'ai entendu une tempête vous parler, là, mais je pense que ça aurait notre attention. Hein, déjà, une tempête, c'est assez impressionnant, mais quand la tempête te parle, Elisabeth! Wow, ça doit être assez impressionnant. Lorsque la toute-puissance de Dieu comme ça se manifeste, c'est quoi l'effet que ça a? Ça nous ferme la bouche, ça nous humilie. Et c'est ce qu'on voit ici. Et c'est pour ça que disputer contre le Tout-Puissant, contester avec le Dieu qui nous a créés, ça sert non seulement à rien, mais comme on le voit ici, savez-vous qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'on ne connaît pas Dieu, qu'on n'apprécie pas Dieu tel qu'il est. En fait, ça montre, c'est notre profession que nous nous sommes fait un Dieu à notre propre image. Qu'on est idolâtre. Savez-vous ça? Quand je conteste avec Dieu puis je commence à regimber, c'est parce que je veux faire fitter Dieu dans ma petite boîte. Ça, c'est de l'idolâtrie. Mais quand j'accepte Dieu pour qui il est, j'ai rien à dire. Je veux faire une application par rapport à un mouvement de la chrétienté qui détruit la chrétienté. Ça s'appelle le mouvement de l'évangile de la prospérité. Il y a différents degrés, puis ça peut s'infiltrer même dans nos milieux si on n'est pas vigilant. Et ce mouvement-là détruit le christianisme, s'attaque à l'évangile même. Pourquoi? Parce qu'il fait un Dieu à l'image de l'homme, selon les caprices de l'homme et les limitations de l'homme. Puis tente de forcer Dieu en réclamant des promesses, souvent qui sont prises hors contexte, ou des promesses qui peuvent être légitimes, mais qui ne sont pas obligatoires. Exemple, Dieu peut guérir le pire des cancers, il peut guérir quelqu'un en phase terminale, Dieu peut faire des miracles au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais Dieu n'est pas obligé. Puis il y a une théologie qui va dire que Dieu est obligé parce qu'il est tout puissant, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'on voit dans la Bible que Dieu, des fois, il le fait. Puis, on dit, waouh, ça, c'est tout qu'un miracle. Oui, Dieu le fait. Mais des fois, il le fait pas. Parce que Dieu est plus grand que ça. Dieu a un plan plus grand que juste une guérison. Et le but de Dieu, c'est pas simplement de nous guérir de nos maux physiques. C'est de nous amener à Christ pour ceux qui ne sont pas sauvés, puis nous amener à être conformes à l'image de Christ pour ceux qui sont sauvés. Je donne un exemple. En passant, cette illustration, je la tire du film que je vous ai partagé le début de la semaine passée, The American Gospel. Okay? C'était Gabriel qui me l'a envoyé, puis je vous l'ai fait suivre de Gabriel. C'est vraiment très bon. Je veux dire, il y a vraiment des bonnes affaires là-dedans. Puis, tu sais, ça parle justement de ceux qui sont les leaders de ce mouvement complètement hérétique. Là. Okay? Vous allez voir, ça développe vraiment comment il y a beaucoup d'hérésie là-dedans. Mais là-dedans, il y a une femme qui parle. Je ne sais pas si ceux qui ont écouté, là, c'est quand même assez long. Moi, je l'ai écouté en 2-3 fois. Il a fallu que je le coupe parce que c'est quand même assez long. Il y a une madame là, qui a un respirateur. Puis, ça, puis bon. Pour faire une histoire courte, la madame a des grands problèmes de santé. Elle a réussi quand même à avoir des enfants, puis tout ça. Dieu a travaillé, Dieu a fait des miracles au niveau de la guérison. Ok, elle devrait. Mais savez-vous quoi? Après tout ça, elle est encore dans une situation de grande faiblesse. Elle n'a pas une santé, bang, à tout casser. Mais elle dit d'elle-même de son propre aveu: j'ai appris à faire confiance à Dieu avec ce que lui décide de m'envoyer, puis il sait ce qu'il fait, puis je suis plus heureuse maintenant qu'avant, lorsque je résistais parce que je voulais que Dieu fasse ci puis qu'il fasse ça. La paix, la joie, le bonheur est venu quand elle a cédé. Et Dieu, fais ce que tu veux avec moi. T'es Dieu. Moi, je suis simplement ta servante. Wow! Ça, c'est quand même une leçon justement très forte sur la toute-puissance de Dieu. Dieu, il est capable de la guérir, cette femme-là. Mais il a décidé autrement parce qu'il forme Christ en elle. Puis vous l'écoutez parler, là, on voit, wow, c'est une madame qui s'est approchée de Dieu à travers. On voit Christ dans sa vie, on voit la joie du Seigneur. Puis savez-vous que Dieu ne nous ferme pas la bouche, ici comme ici avec Job? Dieu ne nous ferme pas la bouche simplement pour le plaisir de nous faire taire. Et des fois, nous, humainement, les gens qu'on trouve tannant, puis ah, on est-tu content quand ils finissent par se taire? Mais Dieu n'est pas comme ça. Non, Dieu n'est pas pour le plaisir de nous faire taire. Il nous ferme la bouche pour le plaisir de voir son Fils formé en nous. C'est ça qui nous fait plaisir à Dieu. On a parlé du plaisir de Dieu la semaine passée. C'est la volonté de Dieu. Ça lui fait plaisir de voir Christ formé en nous. C'est ce que Paul dit aux Galates. Paul était attristé avec les Galates à cause qu'il croyait justement à un faux évangile. Il disait, vous les Galates, je souffre pour vous autres les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ce qui manquait, c'est ce qui brisait le cœur de Paul. Et ça veut dire pourquoi qu'on fait tant de bruit d'abord? Si Dieu veut nous fermer la bouche avec ce qui arrive, pourquoi on fait tant de bruit? Pourquoi en résistant? Alors que la Bible dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours, la délivrance de l'Éternel. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est là qu'on découvre Dieu. C'est là qu'on apprécie Dieu. C'est là qu'on a un rendez-vous avec Dieu. C'est unique. Il n'y a rien qui remplace ça. Ça, c'est fort. Donc, que le Seigneur nous enseigne à accepter et même à rechercher ce que lui nous dit qui est bon. Pas ce que nous, on imagine être bon, mais ce que lui nous dit qui est bon. Nous, on imaginerait que si on n'avait pas de problème, que si on était en santé, tout serait bien. Mais Dieu dit, non, ce qui est bon, c'est que je forme mon Fils en toi, puis c'est moi qui vais décider comment je veux le faire. Je suis tout puissant, je suis capable, je suis sage, je suis souverain. C'est moi qui détermine comment. Puis sais-tu quoi? Si tu me fais confiance, ça va être vraiment toute qu'une expérience agréable. Faut qu'on le croie, ça, mes amis. C'est pas facile à croire. Qui dirait que souffrir, ça peut être bon pour nous? Parce que Dieu transforme le mal en bien. Dieu est là au milieu même de la souffrance. Et la dernière leçon du livre de Job sur la toute-puissance de Dieu, et je pense que c'est la grande leçon du livre au complet, c'est que la toute-puissance de Dieu implique aussi sa compassion. Savez-vous que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs? Dieu est tout-puissant, puis il peut faire ce qu'il veut, mais aussi il est compatissant. Maintenant, pourquoi je pense que c'est la grande leçon du livre de Job? Parce qu'à la fin du livre de Job, on va voir, il y a Dieu lui-même qui amène cette leçon, mais tout le long du livre, dans Job, les trois premiers amis brandissent la toute-puissance de Dieu comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Dieu peut te replacer, mon ami. Dieu est tout-puissant et il est capable de faire quelque chose avec toi. Non, c'est pas surprenant qu'ils l'appellent des consolateurs fâcheux, n'est-ce pas? Parce que ils se servent de la toute-puissance de Dieu pour dire « Dieu va te remettre à ta place, mon gars. » Wow! C'est quoi? Dieu lui-même, il dit, ils n'ont pas parlé de moi droitement. Pourquoi? Parce qu'ils ont distorsionné qui Dieu est. Okay? Puis c'est Dieu lui-même qui dit, ils n'ont pas parlé droitement de moi. Vous allez voir, 42:7, ça le dit. Parce que oui, Dieu, c'est vrai qu'il est tout puissant puis il peut nous remettre à notre place. Tu sais quoi, je suis content quand Dieu me remet à ma place. J'en ai besoin. J'ai besoin du Dieu tout puissant dans ma vie de remettre à ma place parce que je m'égare facilement. Je suis une brebis qui suit facilement ma propre voie. OK? Mais Dieu est plus grand que ça. Il n'est pas juste tout puissant. Sa toute-puissance est jamais limitée, elle ne limite jamais, pardon, sa compassion, son amour. Parce que, OK, Dieu qui est présenté comme tout-puissant dans une grande tempête, savez-vous comment il se présente la première fois que le contact est rétabli entre Dieu et Job? Savez-vous c'est quoi que Dieu met de l'avant en premier? Je suis le Dieu de l'Alliance. Je suis le Dieu de la promesse faite à tes pères, puis que je garde encore envers toi, Job. Ah oui, il parle d'une tempête, mais il se présente comme l'Éternel. Quand vous voyez dans la Bible l'Éternel, c'est le nom de l'Alliance, c'est le nom que Dieu a utilisé avec Moïse quand il s'est présenté dans le buisson ardent. Il dit, c'est moi l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y avait des promesses qui étaient faites au patriarche, puis il n'avait pas oublié avec Moïse, puis il rappelait à Moïse, « Hey, je suis en train d'accomplir mon plan, je suis l'Éternel, non seulement je suis tout-puissant, puis je suis capable de vous faire sortir d'Égypte, mais c'est parce que je vous aime, j'ai compassion de vous autres, j'ai entendu votre cri, je ne vous ai pas laissé tomber, puis je viens vous visiter pour vous délivrer. » Puis c'est ce qu'il dit essentiellement à Job aussi, « Ah, oh, je suis tout-puissant, puis je parle d'une tempête, mais j'ai compassion de toi, je ne t'ai pas oublié, je suis fidèle à mon alliance, parce que je t'aime. » Wow! Savez-vous que la doctrine de la toute-puissance de Dieu, c'est qu'il faut manipuler avec soin? Vous avez déjà vu ça sur un emballage, sur un produit. Manipuler avec soin. C'est comme le petit génie scientifique, avec les cheveux frisés, puis là, il y a une fiole de couleur bleue, puis une fiole de couleur rouge, puis s'il ne manipule pas avec soin, puis il mélange, et paf, ça l'explose. Ben, c'est un peu la même chose. On a la compassion de Dieu, son amour, puis sa toute-puissance. Il faut manipuler avec soin. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas cet équilibre entre les deux, entre la toute-puissance de Dieu, puis son amour, je vais me servir de la toute-puissance de Dieu comme un instrument de torture spirituelle. Pour moi, puis pour les autres. C'est ça qui arrivait avec Job et ses amis. Ils faisaient de la torture spirituelle, pauvres autres. C'était ça qui arrivait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient complètement oublié puis mis de côté que Dieu, oui, est tout-puissant, puis peut remettre le monde à sa place. Puis Job en avait besoin, puis on en a besoin. Mais Dieu est compatissant. Dieu est sage. Dieu est... Il n'est pas insensé comme nous autres, puis dire, « Toi, tu vas voir, tu vas passer un mauvais quart d'heure. » Ah, Dieu est pas mal plus grand que ça, puis il est pas mal plus sage que ça. Tu sais quoi? Ça, c'est les trois premiers amis du livre de Job, puis il y en a un autre. Le quatrième, le plus jeune, mais que ça dit qu'il est animé par l'Esprit de Dieu. C'est quoi son nom? Eliu. Eliu, le quatrième qui parle, le plus jeune, puis ça dit, « C'est pas l'âge, puis... » En fait, venez à 32, verset 7 et verset 8. Ici, c'est Eliu qui parle, il dit, « Je disais à moi-même, les jours parleront. » Donc, ici, Eliu qui il se disait en lui-même sur ceux qui ont parlé avant lui, les trois premiers amis, « Les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit du souffle, du tout-puissant, entend notre mot, qui donne l'intelligence. » Et pourquoi Eliu est différent? Puis pourquoi il n'a pas été repris par les autres? Parce qu'il donne quelque chose, je pense, qui est valable par rapport à ce Dieu tout-puissant. Il y a trois choses. Le message d'Eliu à Job, ça se résume à trois choses bien simples. Il invite Job à regarder à l'Éternel. Regarde, considère l'Éternel. Juste regarde à lui. Bon point de départ, OK? Arrête de regarder à tes amis. Arrête de regarder à ta souffrance. Regarde à Dieu. Attends-toi à lui. Non seulement regarde à lui, mais attends-toi à ce que lui fasse quelque chose. La foi s'attend à Dieu. Hein? N'est-ce pas vrai qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu si on ne croit pas que Dieu existe? Puis il faut croire que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu, je m'attends à quelque chose de toi. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je regarde à toi parce que je sais que tu vas faire quelque chose. Puis j'accepte tes voies. C'est ça le message d'Eliu. Regarde à l'Éternel, attends-toi à lui, puis accepte ses voies. C'est poche, comme on dit. T'as tout perdu. Mais sais-tu quoi? Au bout du compte, si tu ne l'acceptes pas, c'est toi qui va être misérable, qui va... Faut que tu acceptes ces voies aussi incompréhensibles, aussi difficiles, plus t'es là. C'est des bons conseils par rapport au Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que ça implique aussi sa miséricorde. Élu manipulait avec soin la toute-puissance puis l'amour de Dieu. Parce qu'avec ces trois choses, regarder à l'Éternel, s'attendre à lui, ça montre, hey, Dieu est tout-puissant, il peut faire de quoi? Puis, accepter ses voies, ça montre que Dieu t'aime. Tu sais quoi? Il t'envoie par ce passage-là, par ce chemin-là, parce qu'il t'aime. Accepte-le. Puis, n'est-ce pas vrai? On voit à la fin. Dieu a été fidèle, il a complètement rétabli Job. Est-ce que Dieu, sa toute-puissance a été manifestée? Oui, parce qu'il a tout restauré. Est-ce que son amour a été manifesté? Absolument. Il a complètement restauré son serviteur. Il a dit qu'il y a eu des jours heureux. Il est mort d'une mort heureuse. Parce que Dieu est fidèle. J'amène tout ça à une dernière chose ce matin. C'est précisément là que je veux qu'on termine. Non seulement Dieu est tout-puissant, et il peut agir dans ta situation présente. Je ne connais pas votre situation à vous autres, chacun. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu peut s'occuper de ça. Rien n'est impossible à l'Éternel. Ah, Dieu ne va pas faire ce qui est contraire à sa nature. Il ne va pas faire ce qui est mauvais. Mais tout ce qui est bon à faire, tout ce qui est digne de louange, Dieu peut le faire dans votre vie. Dieu est capable. OK? Ça, c'est certain. Mais en plus, il est miséricordieux. On peut aller à lui. On n'a pas à avoir peur de lui. Si Dieu était juste tout puissant, on aurait peur de lui parce qu'on aurait peur que le tonnerre nous tombe sur la tête. Mais Dieu est miséricordieux, il est patient. Savez-vous que ça veut dire le mot miséricorde? Ça vient du latin. On n'apprend plus le latin à l'école, hein? Même nous, on ne l'a pas appris. Du latin miséré puis cardia. Miséré, c'est la misère. Cardia, c'est le cœur. Ta misère dans mon cœur. C'est ça que ça veut dire, la miséricorde. C'est spécial, hein? Miséricorde, miséricardia. Dieu ressent notre misère. Est dans son propre cœur. Fait que Dieu, c'est pas parce qu'il est pas capable puis il nous a oubliés. C'est juste parce qu'il est en train de faire quelque chose qu'on comprend pas. Donc, pourquoi pas se rappeler simplement ça. Dieu, c'est à toi que je regarde puis je m'attends à toi. Puis par ta grâce, je veux accepter tes voies. Savez-vous quoi? Quand on fait ça, on fait connaître à Dieu, on s'inquiète de rien, puis on fait connaître à Dieu nos besoins par des prières, des supplications, puis avec des actions de grâce. Et là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, merci que tu es ce Dieu qui est digne de toute confiance. Parce que tu es capable de toutes choses, tu es tout puissant. Tu es autosuffisant, tu n'as pas besoin de personne, même pas de nous. Mais Seigneur, parce que tu es amour, parce que tu es plein de miséricorde, riche en bonté, tu veux nous utiliser, tu as décidé que tu voulais cette relation avec nous. Et Seigneur, merci que même si on ne comprend pas tes voies, on peut comprendre que tu veux former Christ dans tes enfants. Que tu veux appeler les gens à Christ qui sont encore en dehors de toi. Seigneur, on regarde à toi ce matin. Et on s'attend à toi. Oh, et de grâce, on te prie de nous fortifier dans l'homme intérieur afin qu'on puisse accepter tes voies. Oh, comme on lutte avec ça. Mais Seigneur, tu es suffisant. Et tu donnes à ceux qui t'invoquent, à ceux qui regardent à toi. Et que ce temps de réponse maintenant à ce que tu nous as dit soit ça. Regarder à toi, s'attendre à toi et accepter tes voies. L'accepter, pas en regimbant, mais avec des actions de grâce, une acceptation qui te remercie, qui te loue, qui te chante. Rien de moins, Seigneur. C'est là qu'est la paix, c'est là qu'est la joie, c'est là qu'est notre rendez-vous avec toi. Ah, merci que tu l'as voulu ainsi, Seigneur, pour pas qu'on dépende de nous-mêmes, pour pas qu'on regarde à nous-mêmes, pour que rien ne dépende de nous, mais que toute la gloire vienne à toi, Seigneur, parce que c'est seulement toi qui peux faire ces choses. Alors, Seigneur, on est totalement dépendant et devant toi ce matin. Que ta volonté se fasse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever.